à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 10 mai 2019. Eric Manilakiza et Nathalie Barge à la présentation. Voici d'abord les titres.
Au Burkina Faso, 2 militaires français et 4 ravisseurs ont été tués pendant la libération de 4 otages étrangers.
En Afrique du Sud, la victoire législative se confirme pour l'ANC avec un recul de 5 points par rapport à 2014.
Au moins 3 migrants sont morts noyés et des dizaines sont portés disparus au large de la Tunisie.
Les discussions sino-américaines ont été ajournées pour ce vendredi.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Dans le nord du Burkina Faso, les forces spéciales françaises ont libéré 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne. 2 militaires français ont été tués dans l'intervention. John Lyndon.
Selon l'état-major français, 4 ravisseurs ont été tués pendant cette opération. 2 militaires français y ont également trouvé la mort. Les 2 Français libérés ont été enlevés le 1er mai dans le nord du Bénin. Le corps de leur guide béninois a été découvert samedi dans le parc national de la Pendjari où ils effectuaient un safari. Par la suite, leur véhicule a été retrouvé dans l'est du Burkina Faso. Les 2 anciens otages sont attendus ce week-end à Paris. L'identité des 2 autres anciens otages n'était pas connue dans l'immédiat, mais il s'agirait d'une Américaine et d'une Sud-Coréenne. Leur enlèvement n'a jamais été signalé ni revendiqué. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a salué sur Twitter la libération des otages au cours d'une intervention militaire conjointe. Selon le communiqué de l'état-major français, l'opération audacieuse a été rendue possible par la mobilisation des moyens de Barkhane, l'implication des forces burkinabées et le soutien américain en renseignement.
La ministre française des Armées, Florence Parly, a confirmé l'aide américaine au plan du renseignement dans cette opération.
C'est un soutien qui est régulier et qui a pour cible principale le renseignement. Et ce n'est pas nouveau, c'est un soutien que nos amis américains nous procurent de façon régulière et constante dans cette opération, ou d'une façon plus générale à nos côtés dans le cadre de notre présence au Sahel.
Par ailleurs, Tibor Nagy, chargé de l'Afrique au département d'État, a remercié la France sur Twitter pour la libération de l'otage américaine et présenté ses condoléances aux familles des soldats tués pendant l'opération. Il a remercié aussi le Burkina Faso et le Bénin pour leur partenariat fort dans la lutte contre le terrorisme.
Au Nigeria, près de 900 enfants des milices anti-djihadistes ont été démobilisés. 894 enfants, dont 106 filles, ont été libérés à Maïdougouri, a annoncé l'UNICEF. Ils ont été utilisés par des groupes armés et ont été témoins de tueries et d'autres violences, a déclaré le représentant de l'UNICEF pour le Nigeria, Mohamed Fall, précisant que des milliers d'enfants sont encore à démobiliser dans le pays.
Dans le Nord Kivu, en RDC, des manifestants réclamant de meilleurs services téléphoniques devant le siège de la société de téléphonie Eatel à Goma ont été réprimés par la police. Il y a 11 blessés selon Bienvenue Matumo, militant de la Lucha. Le commandant de police qui conduisait l'opération a déclaré être venu rétablir l'ordre car selon lui, les manifestants n'avaient pas l'autorisation de faire un sit-in ici. Une contre-manifestation a été menée par des vendeurs de cartes prépayées d'Eatel.
En RDC, toujours, le chef sécessionniste Né Mwanda Nsemi a été arrêté peu après sa réapparition publique et placé en détention la nuit dernière à Kinshasa. Selon le porte-parole de la police, Pierrot Rombo Mwanaputu, Né Mwanda Nsemi s'était échappé de la prison de Makala en mai 2017. Il a fait une apparition à la télévision publique cette semaine. Le ministre de l'Intérieur avait alors promis de le conduire en prison.
En Afrique du Sud, plus de 95% des votes ont désormais été comptabilisés et il ne devrait plus y avoir de surprise. L'ANC arrive en tête de cette élection générale avec 57% des voix. Les premières réactions et analyses de ces résultats commencent à se faire entendre. Le point avec Patricia Huon à Johannesburg.
Le Congrès national africain, l'ANC, conserve sa majorité au Parlement, mais avec 57% des suffrages, il n'y a pas de quoi triompher. C'est le score le plus faible jamais enregistré lors d'une élection nationale pour le parti au pouvoir. Le président Cyril Ramaphosa ne s'est pas encore exprimé, attendant certainement la proclamation des résultats définitifs. Le parti de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique, augmente son score de manière significative et passe la barre des 10%. Il s'impose comme la troisième force politique du pays. Sur son compte Twitter, l'EFF s'est félicité d'avoir secoué le parti au pouvoir 6 ans seulement après sa création. L'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition, est quant à elle en légère baisse, avec un peu moins de 21% des voix. En tentant de se débarrasser de son image de parti blanc, l'ADA a au final délivré un message peu clair et s'est aliéné une partie de son électorat traditionnel blanc et conservateur sans séduire massivement parmi l'électorat noir. Le leader du parti, Mizima Emane, s'est néanmoins dit satisfait de ne pas être tombé dans le populisme lors de cette campagne. Patricia Lyon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Les Algériens manifestent pour un 12e vendredi consécutif, le premier vendredi depuis le début du Ramadan. La quasi-totalité des Algériens observent ce mois de jeûne. À Alger, après la prière hebdomadaire en début d'après-midi, plusieurs rues autour de la Grande Poste étaient noires de monde. L'endroit est devenu le point de ralliement de plus de 2 mois de manifestations contre le système pour désigner le pouvoir et contre les élections prévues en juillet.
Le Conseil de sécurité a appelé ce vendredi toutes les parties au conflit libyen à revenir rapidement à la médiation politique de l'ONU et à s'engager à respecter un cessez-le-feu. Seule une escalade peut aider à un succès de la médiation, ajoute la déclaration qui n'évoque pas le projet britannique d'une résolution sur un cessez-le-feu bloqué depuis plusieurs semaines par des divisions du Conseil de sécurité.
3 migrants ont été retrouvés noyés et des dizaines d'autres sont portés disparus après le naufrage d'une embarcation au large de la Tunisie. Raïssa Girondin nous en dit plus.
Un bateau de pêche a pu sauver 16 migrants, d'après le porte-parole du ministère tunisien de la Défense, Mohamed Zekri. Les rescapés ont été transférés à bord de l'une des 3 unités militaires tunisiennes qui participent aux opérations de recherche. 60 à 70 migrants d'Afrique subsaharienne se trouvaient à bord de l'embarcation partie jeudi de Zouara en Libye pour tenter de rejoindre clandestinement l'Italie. Les autorités italiennes redoutent que les combats en cours en Libye ne poussent des milliers de migrants à prendre la mer. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a répété plusieurs fois le mois dernier que personne ne serait autorisé à débarquer en Italie. Selon un rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, la Méditerranée a été plus mortelle que jamais. Le HCR a estimé qu'une personne sur 18 tentant la traversée meurt ou disparaît en mer.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont été ajournées pour ce vendredi à Washington. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu'il y a eu des discussions constructives entre les deux parties. Le vice-premier ministre chinois Liu He, chargé de diriger les négociations commerciales à Washington, avait quitté le lieu des négociations tout juste 2 heures après y être entré. Les hauts responsables américains se sont dirigés vers la Maison-Blanche pour faire état des discussions à Donald Trump et qui abattu.
Le négociateur américain Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont accueilli les responsables chinois, dont le vice-premier ministre Liu He, ce matin à Washington, non loin de la Maison-Blanche. Les responsables des deux parties sont apparus détendus en dépit de l'entrée en vigueur dans la nuit des droits de douane supplémentaires sur 200 milliards de dollars de biens chinois. Ces négociations, initialement présentées comme les dernières avant un sommet entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, ont peu de chances d'être concluantes cette semaine, a laissé entendre le président américain. Pas besoin de se précipiter, a-t-il dit dans un tweet, ajoutant que les droits de douane apporteront beaucoup plus de richesses à notre pays qu'un accord traditionnel, même exceptionnel.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo va s'entretenir avec le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine à Sotchi en Russie. Il déposera d'abord à Moscou une gerbe sur la tombe du soldat inconnu dédiée aux troupes soviétiques tombées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à huis clos aujourd'hui pour discuter de la situation en Syrie. Paris craint un nouvel Alep, évoquant implicitement la reprise dans le sang de cette localité fin 2016 par le régime syrien.
Crise au Venezuela, le ministre brésilien des Affaires étrangères Ernesto Araújo a estimé aujourd'hui à Varsovie que l'arrestation du bras droit de l'opposant vénézuélien Juan Guaido était un acte de désespoir du régime de Nicolas Maduro qui se voit de plus en plus coincé sans appui presque nulle part.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
En RDC, le ministère des Mines a approuvé le rachat du projet de cuivre Kalongwe par la compagnie chinoise Tianjin Mining pour plus de 78 millions de dollars. La mine Kalongwe, détenue à 85% par Nzuri Copper, devrait produire sur 8 ans une moyenne annuelle de 18 657 tonnes de cuivre et 1 370 tonnes de cobalt. En Angola, le président Lourenço a limogé le PDG de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale. Carlos Saturnino est remplacé par Gaspar Martins, déjà au conseil d'administration. Depuis plusieurs jours, une grave pénurie d'essence paralyse le deuxième producteur de pétrole du continent. La Namibie veut mobiliser environ 40 millions de dollars en faveur des fermiers de la sécheresse. Les personnes affectées recevront une assistance alimentaire, des tanks d'eau et des facilités pour leurs activités. Les fermiers percevront des subventions et auront de l'aide pour l'organisation des récoltes. Terminons avec la firme londonienne Adevco qui s'engage à investir 3 millions de dollars dans l'agro-industrie au profit de la société sierra-léonaise Tradin Organic. Cela permettra à Tradin Organic de s'approvisionner en cacao durant les récoltes auprès de 20 000 agriculteurs. Adevco espère connecter près de 6 000 petits producteurs de cacao au marché pour des revenus globaux de 550 000 dollars en Sierra Leone.
Et c'est le moment de votre page d'espoir avec Bagassi Koura. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
L'UEFA, le football anglais sur le toit de l'Europe, deux finales 100% anglaises, n'est-ce pas?
Oui, puisqu'on le sait depuis hier, la finale de l'Europa League opposera Arsenal à Chelsea avec un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et un but du Français Alexandre Lacazette. Arsenal a dompté Valence 4-2. C'était en demi-finale et retrouve donc la finale de C3 19 ans après. En finale donc le 29 mai à Bakou en Azerbaïdjan, Arsenal fera face à l'autre club londonien, Chelsea, qui a éliminé Francfort au tir au but après un score d'un but partout à l'aller comme au retour. Et Tottenham et Liverpool s'affronteront en finale de Ligue des Champions. Ce sera le 1er juin à Madrid.
Et à propos justement de ces finales des Coupes d'Europe, Klopp juge l'UEFA irresponsable face à l'explosion des prix des billets.
Oui, l'UEFA est irresponsable à attaquer l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, après que de nombreux supporters se sont émus des coûts de voyage et de l'envol des prix des places pour les finales des Coupes d'Europe. Suite aux qualifications de quatre clubs anglais, les fans des deux clubs londoniens vont ainsi devoir planifier un voyage de 9000 km pour un aller-retour dans la capitale azérie. Les gars de l'UEFA qui décident du lieu des finales, je ne sais pas ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Bakou, je n'ai aucune idée de comment aller là-bas. Je ne sais même pas s'il y a des vols réguliers vers cette destination. A regretter le technicien allemand, les supporters londoniens sont en outre excédés de voir que l'UEFA n'a alloué que 6000 billets à chacun des deux clubs qualifiés pour un stade olympique qui contient 68 700 places.
Et on va terminer avec les Jeux olympiques d'hiver 2022. La Chine lance le compte à rebours.
Oui, à 1000 jours donc de ces Jeux d'hiver 2022 qu'elle organisera à Pékin, la Chine a lancé le compte à rebours officiel de l'événement lors d'une cérémonie fastueuse en présence de l'acteur Jackie Chan. Duo de chanteurs, troupes de danseurs et nuées de jeunes ont animé la soirée organisée dans le parc olympique de la capitale chinoise qui deviendra dans 3 ans et demi la seule ville du monde à avoir accueilli des JO d'été 2008 et d'hiver.
C'était les sports de Bagassikoura.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Maniragidza et Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Deux otages français, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne, ont été libérés lors d'une opération des forces françaises au nord du Burkina Faso. Au cours de cette intervention, deux militaires français ont été tués. Les deux Français ont été enlevés il y a 10 jours au Bénin. Pour analyse, Abdelhamane Dia a joint à Ouagadougou le journaliste burkinabé Dieudonné Zungrana.
L'Élysée nous dit que, en fait, c'était avec la coopération du Burkina, du Bénin, avec des militaires américains. Donc, vraisemblablement, ça doit être une opération conjointe qui a abouti à ces résultats-là.
Le ministère burkinabé de la Défense n'a rien dit jusque-là.
Dans une telle opération, on essaie de parler le moins possible pour un peu entourer l'opération de chance de succès. Peut-être que ultérieurement l'armée qui n'avait communiquera, mais pour le moment, c'est la voix de l'Élysée qui nous apprend un peu sur cette opération qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 mai.
Et la force G5 Sahel et même l'armée burkinabé, pourquoi dans une opération comme ça, ces deux entités n'ont pas pris les devants?
Parce que vous savez bien que le G5 est dans le siège est à Bamako, parce que le siège avait été détruit à Sévaré, n'est pas encore totalement fonctionnel, parce qu'on n'a pas encore pu boucler le budget, le jalonnement des 5000 hommes pose problème. Donc pour le moment, bon, c'est une force qui est là, mais qui n'a pas encore toute la plénitude de son opérationnalisation.
On parle d'une américaine et d'une sud-coréenne qui ont également été libérées lors de cette opération. Est-ce que leur enlèvement avait été revendiqué auparavant?
Et les autorités, les différentes autorités savaient qu'il y avait d'autres otages qui étaient retenus. Donc, ils ont profité de faire d'une pierre deux coups. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres otages qui sont retenus là-bas. Parce que, effectivement, le nord Burkina est devenu aussi une zone où les différents katibas ont pignon sur sable, si je peux me permettre cette expression.
Avant, quand on parlait d'otages, on pensait plutôt au nord du Mali comme potentiel lieu de détention. Maintenant, on retrouve des otages dans le nord du Burkina. Qu'est-ce que cela peut signifier dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel?
Non, il faut la mutualisation des forces armées, parce que vous savez que souvent même quand vous parlez du nord Burkina, en fait, souvent il y a des opérations que les djihadistes mènent au nord Burkina, ensuite il se replie vers le nord Mali. Et pour le cas du Bénin, vous savez que tout dernièrement, il y a eu une opération du Burkina dénommée Otapuanou. Et je pense qu'après cette opération, beaucoup de djihadistes ont voulu faire du Togo et puis du Bénin leur base aérienne. Donc en fait, comme nos frontières sont poreuses, bon, souvent on parle du nord Burkina, mais en réalité, ceux qui agissent dans ce nord Burkina souvent replient vers le nord Mali.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso.
Raissa Girondin, en votre compagnie, que pensez-vous des conditions de travail des infirmiers et des infirmières dans votre pays? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. À l'occasion de la semaine de la profession infirmière 2019, on s'intéresse aujourd'hui à ces personnes qui, au quotidien, font un travail remarquable et souffrent pourtant d'un gros manque de reconnaissance. Réagissez en direct à 18h en temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Laissez vos commentaires sur notre page Facebook avec vos numéros, nous vous rappellerons.
Scandale dans la filière du bois au Gabon. Près de 400 conteneurs de bois, notamment le mythique Kevasingo, ont disparu du port de Libreville alors qu'ils étaient précédemment scellés par la justice. Ces conteneurs seraient sortis frauduleusement du pays. Le parquet promet de traquer les responsables de ce trafic. De son côté, la société civile prend cette déclaration avec beaucoup de réserves. Voici un reportage d'Ismaël Obiangnze à Libreville.
Une fraude à grande échelle dans le secteur bois, des questions encore sans réponse qui confirment l'exploitation toujours illicite des essences de la forêt gabonaise. Malgré la mesure gouvernementale interdisant l'exportation des grumes, la preuve, c'est bien le détournement des conteneurs, pourtant mis sous scellé par la justice. Franck Jimbi, journaliste et activiste, réclame la vérité sur ce dossier.
Il faut clarifier les responsabilités entre les différentes administrations, les clarifier, et il faut un statut clair des agents des eaux et forêts, des magistrats et des statuts clairs des douaniers, avec la possibilité de mettre en cause, y compris les magistrats, en cas de faute. Or, aujourd'hui, les magistrats sont surprotégés. Ils ne peuvent être mis en cause en cas de faute. Donc, même si on découvre que c'est la magistrature qui n'a pas approuvé les scellés, les magistrats sont surprotégés. Que va-t-il leur arriver ? Rien.
Ce bois qui est sorti n'était pas totalement transformé, soit il était débité, ajoute Franck Jimbi, comme lui, Marc Onay Sangui de l'ONG Brent Forest, reste dubitatif sur la dernière sortie du procureur.
C'est un film de science-fiction. Comment le procureur de la République peut monter au chrono pour annoncer que 353 conteneurs transportant le Kévasingo auraient disparu, j'ai dit bien disparu, du port de Libreville. C'est un scandale, c'est inadmissible. Ce n'est pas 350 bois de sardines, encore moins 350, je ne sais pas moi, bois d'allumettes. C'est 350 conteneurs de capacité énorme. Alors, il va falloir que tous les auteurs de cette mafia soient démasqués.
L'instruction judiciaire a déjà permis l'interpellation d'une dizaine de personnes et 18 conteneurs retrouvés en Chine. Mais selon le parquet, les agents de l'administration des eaux et forêts requis par le ministère public pour nécessité d'enquête ont été rappelés par leur hiérarchie. Olivier Nzaou, procureur de la République.
Le parquet de la République tient à rappeler que quels que soient les rangs et grades des personnes impliquées dans ce qu'il convient de nommer réseau Kévasingo, elles seront poursuivies et force restera toujours à la loi.
Au ministère des Eaux et Forêts, où nous nous sommes rendus, personne ne veut en parler. Il s'agit d'un dossier sensible, précise une source sur place, avant de reconnaître sous couvert d'anonymat que ce scandale met en mal les politiques volontaristes du gouvernement visant à protéger les forêts gabonaises. Ismaël Obiangnze, VOA Afrique, Libreville.
Les États-Unis ont décidé de surtaxer 200 milliards de dollars de produits chinois à hauteur de 25%. Malgré tout, des discussions ont été ajournées pour ce vendredi à Washington entre les délégations américaines et chinoises. Pour parler de cette escalade commerciale, Raissa Girondin a joint le professeur d'affaires politiques et économiques à l'université Johns Hopkins, Jean-François Seznec.
C'est une négociation intense et très difficile. Et je pense que le gouvernement chinois a essayé de renégocier le deal alors qu'il était déjà fait. Ils ont eu l'impression, peut-être fausse, que le président était assez affaibli en ce moment et que par conséquent, il aurait voulu avoir un accord commercial avec la Chine parce que ça l'aurait renforcé politiquement aux États-Unis.
Alors pourquoi le président américain met-il autant de pression sur Beijing alors qu'un accord semblait se dessiner ? Est-ce qu'on sait exactement sur quoi ça bloque ?
On pense qu'effectivement, le problème est basé sur le fait que l'accord disait que les Chinois, le gouvernement chinois allait changer le système légal en Chine, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que les réglementations sur le commerce se fassent uniquement par des édits écrits par l'État, mais que ce soit un changement dans la loi, disant que, par exemple, des compagnies étrangères peuvent s'installer aux États en Chine, que les Chinois ne pourront pas vraiment utiliser la technologie américaine sans l'accord des Américains. Ils voulaient que les Américains veulent que ce soit dans la loi chinoise et pas simplement par édit écrit par l'État. Et apparemment, c'est la base du problème.
Est-ce qu'on peut dire que le combat américain est légitime quand on sait qu'il y a du vol de propriété intellectuelle, transfert forcé de technologie, une ouverture du marché domestique ?
Ah oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Le fait qu'il y a un déficit commercial de 450 milliards de dollars et que les compagnies américaines n'aient pas vraiment le droit de s'introduire en Chine facilement. Je pense qu'effectivement, il y a un problème fondamental. Et les Chinois doivent corriger ça si on veut pouvoir continuer à travailler ensemble.
Vous avez mentionné un déficit commercial des États-Unis qui est énorme avec la Chine. Alors, quelles peuvent être les conséquences sur le marché américain tout d'abord ?
Des choses aux États-Unis vont augmenter, bien sûr, parce que les États-Unis sont très dépendants des achats en Chine. Hein. 450 milliards de dollars, c'est énorme. Ça représente un pourcentage des ventes totales aux États-Unis qui est très important. Donc, si les compagnies qui importent des produits chinois sont payées 25%, sont obligées de payer 25% en plus, le coût de la vie aux États-Unis va augmenter.
Quelle peut être la réaction des marchés financiers et plus encore, quelle peut être la répercussion sur les autres pays
Et ça va être très grave. Enfin, si ça ne s'arrange pas, parce que ça veut dire que la Chine va avoir énormément de produits qu'ils ne peuvent plus vendre vraiment facilement aux États-Unis, ils vont essayer de vendre ces produits ailleurs. Donc, ça va faire beaucoup de mal au commerce avec l'Europe, par exemple, parce que les produits chinois vont coûter beaucoup moins cher et les compagnies européennes vont avoir beaucoup de mal à concurrencer les produits chinois.
Jean-François Sevenec, professeur d'affaires politiques et économiques à l'université Johns Hopkins, joint à Washington.
La cote de popularité du président Donald Trump dans le dernier sondage Gallup est à 46%, son plus haut niveau depuis le début de sa présidence. Certains républicains estiment qu'il est temps pour le président de tourner la page de l'enquête sur l'ingérence russe. Toutefois, ni M. Trump ni les démocrates ne semblent pressés d'abandonner le sujet. Le point avec Lionel Gaïma.
Please welcome the President of the United States.
Lors d'une récente visite en Floride, le président Donald Trump a tenu à rappeler à sa base les résultats du rapport de l'enquête du procureur spécial Mueller.
Did you see what just happened, by the way? No collusion.
Vous avez vu? Pas de collusion, pas d'obstruction, pas de quoi que ce soit. Ils veulent faire ce qu'ils font, ce qui n'a pas de sens. Et je pense que cela nous mène tout droit vers la victoire en 2020.
Le procureur spécial Robert Mueller n'a pas trouvé de preuves de collusion avec la Russie en 2016. Il n'est pas non plus parvenu à une conclusion en ce qui concerne l'entrave à la justice, mais il n'a pas exonéré le président non plus. Pour Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat, il est temps de passer à autre chose.
C'est fini. Je peux comprendre pourquoi nos amis de l'autre côté sont déçus. Ils ont essayé de trouver un moyen d'inverser l'élection de 2016 pendant deux longues années.
Les démocrates n'en demordent pas. Ils concentrent leur tir sur le ministre de la Justice, William Barr, pour son refus de livrer au Congrès une version non expurgée du rapport Mueller. Le démocrate Jerry Nadler, de la commission judiciaire de la Chambre, ne cache pas son outrage.
Il prive le peuple américain de toute information. Et cela ne peut pas se passer.
Toutefois, sous la question de la procédure de destitution de Trump, les démocrates eux-mêmes sont divisés. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.
La mise en accusation est l'un des chemins les plus conflictuels et divisifs que vous puissiez emprunter. Si vous vous engagez dans cette voie, vous devez avoir une garantie de réussite.
Et le succès n'est pas garanti car les républicains contrôlent le Sénat. David Abraham, de l'Université de Miami.
Une procédure de destitution qui ne bénéficie d'aucun soutien républicain sera perçue comme une autre manière de continuer la chasse aux sorcières.
L'enquête sur l'ingérence russe est donc loin d'être terminée. Elle fera partie du débat de campagne en 2020. Malgré tout le remue-ménage autour de cette affaire, les sondages sont restés stables pour le président Trump. Matt Dalek de l'Université George Washington.
Son plafond est assez bas, environ 44% des taux d'approbation. Il n'a jamais dépassé les 50%. C'est la première fois dans l'histoire des sondages qu'un président n'a jamais dépassé les 50%. Son plancher est aussi assez solide. Il est rarement passé en dessous de 36%.
Donald Trump continuera de faire valoir ses droits et les démocrates poursuivront leurs audiences. Le dernier mot reviendra aux électeurs en novembre 2020.
C'est la fin de cette édition de 17h30 en temps universel. À la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Nelson Lopez, à la présentation Eric Manilatiza et Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.